Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de la revue de presse et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez La voix de l'Indonésie. Voici le journal. Les titres pour aujourd'hui sont: le gouvernement d'Indonésie doit augmenter la qualité de la haute éducation. C'est nécessaire d'intensifier le rôle du monde d'affaires dans la prévention des catastrophes. BNPB demande le monde d'affaires de réparer des dommages au bassin versant. Et l'Indonésie est choisie lors des 6e Jeux de Tafisa. Voici le journal complet. Le président de la Fondation pour les ressources humaines en sciences et technologies, Wardiman Joyonegoro, encourage le gouvernement indonésien de continuer à faire des efforts pour développer la recherche en Indonésie. Selon lui, à présent, l'Indonésie a des chercheurs qualifiés, non moins que d'autres pays, mais la présence de ces chercheurs a besoin d'être pris en charge avec de bonnes infrastructures afin d'être en mesure de travailler pour développer la science et en rendre le nom de la nation célèbre sur la scène internationale. Wardiman Joyonegoro a déclaré mercredi à Jakarta, « À présent, la quantité des universités qualifiées en Indonésie n'atteint que 10% des quelques 4000 universités en Indonésie. » Selon lui, ce montant n'a pas été en mesure d'accueillir les étudiants et les élèves indonésiens qui ont des compétences académiques élevées. Nous sommes en pleine croissance et je vois le gouvernement donne maintenant beaucoup d'attention. Certes, ceci ne peut pas être comparé à d'autres pays. D'abord, on doit donner l'attention aux infrastructures universitaires. Ces bonnes universités, ce 10%, ne sont pas capables d'accueillir les bons étudiants. L'installation qui se compose de bâtiments, les professeurs et les laboratoires. Nos professeurs et laboratoires ne l'ont pas été en mesure de correspondre à l'étranger. Wardiman Joyonegoro apprécie la présence du ministère des Recherches, des Technologies et d'Enseignement supérieur comme l'attention du gouvernement indonésien comme une forme d'effort de développement de la qualité scientifique des étudiants à une meilleure direction. Selon lui, à présent, le gouvernement a besoin de donner une meilleure attention au secteur de l'enseignement supérieur dans le pays en améliorant le budget de l'éducation dans le but de rivaliser avec les universités internationales à fournir une éducation de haute qualité et de produire des élèves et étudiants et de meilleure qualité. Le chef du Centre de données et d'information de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo Purwonugroho, a déclaré « Les efforts de la gestion des catastrophes en Indonésie ne suffit pas de compter sur l'Agence nationale pour la gestion des catastrophes et la communauté. » Lors d'un séminaire sur le thème « Le rôle du secteur privé à répondre des questions mondiales » tenu à Jakarta récemment, Sutopo a souligné « Le rôle des entreprises dans la prévention des catastrophes devrait également être amélioré. Selon lui, le rôle des entreprises après la catastrophe a été très bon, mais l'assistance avant la catastrophe doit être améliorée. Pour les activités d'intervention d'urgence, je pense que le rôle des entreprises et de la communauté a été remarquable. Mais le plus souvent, au moment de la pré-catastrophe, en particulier après la transition d'urgence, est généralement très minime. Eh bien, ce devrait être fixé ensemble. Comment de privilégier les activités pré-catastrophe? Sutopo Purwo Nugroho a ajouté, il y a encore beaucoup d'entreprises qui construisent leurs activités commerciales dans les bassins versants qui ont un impact sur les inondations, les glissements de terrain et la sédimentation. En outre, les incendies de forêt sont toujours causés par les entreprises qui brûlent la forêt et la terre. À cette fin, Sutopo Purwo Nugroho invite la communauté d'affaires pour garder son territoire. Sur la base de la loi de plantation, les institutions commerciales sont responsables de maintenir la zone des incendies de forêt, que ce soit le feu, des ressources foncières existantes à l'intérieur et à l'extérieur de la concession. L'inondation qui a eu lieu à Garut et l'impact de la mauvaise gestion des bassins versants Chimanuk. Le chef du centre de données et d'information de l'Agence nationale de la gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho, a déclaré aujourd'hui les dégâts des bassins versants Tunisie est extraordinaire. Selon Sutopo, de 450 bassins versants en Indonésie, 118 bassins versants sont dans un état critique. Lors de séminaires sur le thème « Le rôle du secteur privé » à répondre à des questions mondiales tenues à Jakarta le mercredi 5 octobre, Sutopo invite la communauté des affaires pour construire un barrage pour prévenir les inondations. Si vous comptez uniquement sur le financement gouvernemental, ce n'est pas possible. Donc, si les institutions d'affaires font des cotisations, la communauté n'a pas besoin de l'acquisition de terres. Seuls les petites barrages et des fossés. Quand la pluie, l'eau sera coincée là-bas. Donc, nous surmontons 118 bassins versants qui sont endommagés en Indonésie. Si seulement compter sur le gouvernement, ce n'est pas suffisant. Sutopo Purwo Nugroho a dit, le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement et des Forêts ont déclaré que sur la base du budget par année, seulement en mesure de remettre en état un maximum de 300 000 hectares de forêts et de terres. En effet, la dégradation de terres par an est 1,5 million d'hectares. De 300 000 hectares qui ont été réhabilités, seulement 150 000 hectares qui ont été écologisés avec succès. Sutopo souhaite qu'à l'avenir, il y aura un forum des agences commerciales en cas de catastrophe. L'Indonésie devient l'hôte du 6e jeu de TAFISA, The Association for International Sport for All, soit l'Association des sports internationaux pour tous, qui a eu lieu du 6 au 12 octobre 2016 à Jakarta. 87 pays ont confirmé leur présence au comité organisateur de Jeux de TAFISA le 5 octobre 2016. Le 6e Jeu de TAFISA présente 86 sports récréatifs et traditionnels sur la scène mondiale. Le président du comité organisateur de Jeux de TAFISA en 2016, Hayono Isman, a déclaré mercredi à Jakarta l'élection de l'Indonésie d'être hôte parce que l'Indonésie a une variété de sports traditionnels étonnants. L'Indonésie, précisément la ville de Jakarta, en 2011, au moment du congrès en Turquie, a remporté candidature. Dans la finale, nous avons battu la ville Nestlé aux Pays-Bas pour accueillir les 6e Jeux de Tafisa. L'une des raisons que nous avons gagné, parce qu'on a considéré l'Indonésie à une richesse de sports traditionnels extraordinaire, non seulement en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Malheureusement, ce sport traditionnel est en danger d'être éteint. Hayona Isman a expliqué, en plus de mener le sport traditionnel, le 6e jeu de Tafisa propose aussi des sports création culturelle, tels que Gemuh Mamere, Sajojo et Pocho Pocho, parce que l'exercice de ces créations ont une valeur aérobie élevée et énergique.
Chers auditeurs, nous continuons le journal dont les titres sont Tafisa World Games 2016 est une arène d'introduction de la culture indonésienne. Le gouvernement provincial de Grand Taro offre d'investissements aux entrepreneurs de Moyen-Orient. L'Indonésie accueille le 6e Tafisa ou l'Association internationale du sport pour tout qui dure du 16 au 12 octobre 2016 à Jakarta. 87 pays du monde ont confirmé leur présence au comité d'organisateurs de l'Organisation mondiale des sports publics. Le 6e Jeu mondial du sport, Tafisa, présente 86 sports récréatifs et sports traditionnels de l'Indonésie. Le sport mondial Tafisa est tenu tous les 4 ans et cette année, l'événement mettra en évidence et aidera à réintroduire le sport traditionnel et des jeux de l'Indonésie par lequel tir à l'arc traditionnel, jet ski, yoga, gymnastique, course de BMX, match de football de la rue et pencak silat. Le président du comité de Tafisa 2016, Hayono Isman, a dit à RRI vendredi 7 octobre à Jakarta que le sport mondial Tafisa 2016 est l'occasion d'introduire la culture indonésienne au monde. La délégation indonésienne qui est venue de diverses provinces peut introduire les aliments, les sports traditionnels et les musiques traditionnelles. Selon Hayono Isman, les Jeux mondiaux du sport pour tout Tafisa à travers le thème de l'unité dans les diversités porte le message que la paix vaut mieux que la violence. Tafisa 2016 organise plus de 20 jeux, des démonstrations, des festivals et des expositions. Tafisa 2016 tiendra l'événement de briser le record du monde pour voler les cerfs-volants, faire les plus grandes feuilles le vendredi après-midi. Le gouvernement provincial de Grand Taro optimisera l'événement Indonesia Middle East Update 2016 pour améliorer le développement régional. Le gouvernement est prêt à offrir une variété d'investissements dans le domaine de l'énergie, le tourisme et la pêche à environ 27 investisseurs potentiels du Moyen-Orient qui participeront à Indonesia Middle East Update tenu les 9 et 10 octobre. Le gouverneur de Gorontalo, Rusli Habibi, dans un communiqué de presse a déclaré vendredi, il espérait un potentiel d'investissement à Gorontalo et des discussions par secteur, de sorte qu'il sera plus efficace et bénéfique pour l'augmentation de l'investissement à Gorontalo. Rusli Habibi a dit que Indonesia Middle East Update aura lieu à Gorontalo avec le soutien de la direction du Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères. Ce forum est une tentative de se rencontrer les hommes d'affaires de Gorontalo avec les acheteurs et les investisseurs potentiels du Moyen-Orient. Serge Ritter, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers amis, nous continuons notre émission ce soir avec la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Koran Tempo, le 7 octobre, qui a écrit sur « Criminaliser le destroyer » de Lamong Cimanuk. La police devrait totalement enquêter les résultats de leur équipe d'enquête qui a montré la destruction des forêts dans le bassin versant Cimanuk comme la cause de l'inondation qui a frappé 3 districts à Garut, Java West, le 20 septembre. Koran Tempo a écrit « Le mouvement rapide de la police de Java West de déployer une équipe à l'amont de la rivière Cimanuk est louable. Le mardi dernier, devant une réunion de la direction régionale, le chef de police de Java-Ouest, général Bambang Waskito, a révélé « L'inondation était causée par des dommages aux zones en amont le long de 180 km. » Selon ce quotidien, il y a 2 ans, la police de Java-Ouest a également publié une terminaison de mandat d'enquêter sur le cadre criminel de la gestion de terres forestières de Perhutani et 12 entreprises minières dans le domaine de la gestion forestière Bogor. Bien que la Cour ait annulé la clôture de l'enquête en accordant l'accusation provisoire du Forum sur l'environnement de Java-Ouest, on a soupçonné que les enquêteurs n'ouvrent plus le cas. Cette fois-ci, selon Tempo, la police se rappelait que les catastrophes mardi soir il y a 2 semaines à Garut a tué au moins 53 morts et a forcé 1326 personnes ont été déplacées jusqu'à aujourd'hui. Le journal Média Indonésien a écrit dans son éditorial le 5 octobre sur le renforcement du professionnalisme de l'armée nationale d'Indonésie. Le 5 octobre dernier, l'armée nationale d'Indonésie a célébré son 71e anniversaire. Il y a beaucoup de prestations de l'armée nationale d'Indonésie. Au niveau mondial, la force militaire d'Indonésie est tout à fait respectée. En 2016, Global Firepower a placé l'Indonésie à la 14e position au monde, surpassant l'Australie et le Canada. Il n'y a pas longtemps, le soldat du commandement de réserve stratégique de l'armée de terre de l'armée nationale d'Indonésie, Kostrat TNI, a également remporté le titre général du championnat 9 fois de suite dans l'arène de compétition de tir au niveau mondial en Australie. Au niveau national, récemment, l'armée nationale d'Indonésie rejoint le succès militaire de l'éradication du groupe terroriste Mujahidin à l'Indonésie-Est. Avec une myriade de performances, on ne veut pas dire que l'armée nationale d'Indonésie est impeccablement parce qu'il y a des cas impliquant des achats d'armes illégales, bien que plus tard, on a prouvé que c'était seulement l'erreur de procédure et des problèmes individuels. Média Indonésia a écrit « Beaucoup de partis conviennent le pays a besoin d'une armée forte et professionnelle. La loi interdit explicitement les membres de l'armée nationale de faire des affaires. En conséquence, le gouvernement devrait être en mesure de fournir les installations nécessaires pour l'armée nationale. À l'inverse, l'armée nationale d'Indonésie doit continuer à s'améliorer. La férocité militaire ne figure pas à réprimer le peuple, mais comme une règle de puissance au-dessus des intérêts du pays. Nous terminons avec l'éditorial du quotidien Republica, le 6 octobre, qui a écrit sur la diminution du prix du gaz. Le président Joko Widodo a projeté que le prix du gaz pour l'industrie diminue le novembre 2016. Le chef d'État demande à ses ministres de fixer le prix du gaz pas plus de 6 dollars américains par Million Metric British Thermal Unit, MMBTU. À présent, le prix du gaz industriel est 9,5 dollars américains par MMBTU. Cependant, au Vietnam, le prix du gaz est 7 dollars américains par MMBTU. Et à Singapour et en Malaisie, 4 dollars par MMBTU. Il y a plusieurs années, l'industrie de la céramique se plaint parce que la fournisson en gaz a été étouffée. Le journal Republica a écrit « L'Indonésie est un pays riche en matières premières de gaz. Par conséquent, c'est drôle si la branche de production nationale meurt parce qu'il n'y a pas de gaz. » Selon Republica, le gouvernement ne devrait pas être vaincu par des sociétés ou privées et étrangers qui explorent le gaz en Indonésie. Dans le mandat de la loi de 1945, on stipule que toutes les ressources naturelles sous le sol appartiennent à l'État. Les compagnies de gaz sont tout aussi opérateurs. C'était la revue de presse.
Chers auditeurs, bonsoir. Nous nous retrouvons dans notre programme quotidien l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie, le service mondial de RRI. Nous commençons notre programme avec un événement qui a eu lieu le 8 octobre 1929, l'inauguration de la gare de Jakarta-Kota. La gare de Jakarta-Kota en indonésien, station Jakarta-Kota, est une gare ferroviaire indonésienne située dans le quartier de Kota, la vieille ville de Jakarta. La gare est construite dans les années 1870. En 1926, l'architecte néerlandais Frans Johan Lorenz Gijsel, né le 8 septembre 1882, mène une rénovation qui lui donne son aspect actuel en mélange d'art déco et de style locaux. Après ces travaux, elle est inaugurée officiellement par le gouverneur général des Indes orientales néerlandaises, Andreas Cornelis Dick de Graeff, le 8 octobre 1929. La gare de Jakarta-Kota a finalement désigné comme patrimoine culturel par le décret du gouverneur de Jakarta, numéro 475, en 1993. L'autre information est sur Che Guevara a été arrêté en Bolivie en 1967. Ernesto Rafael Guevara, né le 4 juin 1928 à Rosario, plus connu comme Che Guevara, est un révolutionnaire marxiste et internationaliste ainsi qu'un homme politique d'Amérique latine. Il a notamment été un dirigeant de la révolution cubaine qu'il a théorisé et tenté d'exporter vers d'autres pays, souvent considérés comme un mythe et un héros. Bien que Che soit devenu un expert marxiste et social de Lénine, il ne voulait pas se joindre à parti communiste. Il lui a fait de perdre la possibilité pour devenir le personnel médical du gouvernement. À cause de cela, il est devenu pauvre. Il vivait avec Hilda Gadia, un marxiste d'origine indienne et diplômé de l'éducation politique. Cette femme qui a présenté à Nico Lopez l'un des lieutenants de Fidel Castro. Guevara a rencontré et a été impressionné de Raúl Castro et Fidel Castro, aussi les immigrants politiques. Il a réalisé que Fidel était le chef qu'il cherchait. Moins 6 mois après la victoire de la révolution cubaine, Castro a envoyé Che pendant les 3 mois à visiter 14 pays d'Asie, la plupart des pays participants de la conférence afro-asiatique de Bandung 1955, y compris Jakarta, l'Indonésie. La dernière aventure révolutionnaire de Che était en Bolivie. La capture de Che par les forces boliviennes le 8 octobre 1967 a été la fin de tous ses efforts et la punition de tir a été décidée un jour après cela. Le 12 juillet 1967, ses restes ont été inhumés avec cérémonie militaire dans la province de Santa Clara de la Vila où Guevara a gagné la victoire dans les batailles lors de la révolution cubaine. Le dernier événement était en 2004 lorsque Chapelle Lecorbi a été arrêté. Chapelle Lecorbi, née le 10 juillet 1977, est une ancienne étudiante de l'école de beauté de Brisbane en Australie qui est arrêtée sur l'île de Bali en possession de marijuana dans son bagage à l'aéroport Ngurah Rai, Bali, Indonésie, le 8 octobre 2004. Elle a toujours clamé son innocence, assurant que la drogue avait été placée dans son bagage à son insu. Mais cette affirmation est contestée par les agents des douanes qui ont déclaré que Corby a essayé de les empêcher en allant vérifier son sac. Chapelle Corby avait été condamnée à 20 ans de prison en 2005. En outre, elle a également été imposée une amende de 100 millions de roupies. Le procès de Corby est devenu un sujet brûlant dans la relation entre l'Indonésie et l'Australie. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec la mise au point et un beau titre. La FMI apprécie la réforme économique d'Indonésie.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Le directeur exécutif du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, a salué les réformes de la politique économique du président Joko Widodo dans les deux dernières années de son règne. Comme affirmé Lagarde répondant au plan de la tenue des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale 2018 à Bali, en Indonésie. Dans une conférence de presse au siège du FMI à Washington, D.C., aux États-Unis, jeudi, Lagarde a dit qu'elle était très heureuse d'être en mesure d'assister directement les réformes qui ont été menées. Selon Lagarde, les réformes politiques qui ont été faites par président Joko Widodo, en particulier la réduction des subventions au carburant, a fourni l'espace budgétaire pour les infrastructures et les services publics comme l'éducation et la santé. L'Indonésie est également considérée comme ayant l'endurance louable parce que son économie ne cesse pas de croître au milieu de la crise économique mondiale. Lagarde a l'opinion que les rencontres entre le FMI et la Banque mondiale en Indonésie seront très importants pour la région, qui est une région du monde qui est encore en croissance assez fortement. Il existe une coopération régionale par le biais de l'ASEAN, l'ASEAN plus 3, et ainsi de suite. Le directeur exécutif du FMI a également mentionné l'importance de la coopération initiative de Chiang Mai, CMI, par l'ASEAN plus 3, à savoir les 10 pays membres de l'ASEAN, ainsi que le Japon, la Corée du Sud et la Chine, qui permet aux pays membres d'échanger la monnaie locale par rapport au dollar américain, le montant maximal de la contribution de l'État multiplié par le multiplicateur. Selon Christine Lagarde, il y a beaucoup de développement qui est démontré par la coopération régionale qui peut être montrée en provenance d'Indonésie. FMI évalue que la coopération régionale est importante dans la création d'une économie inclusive à grandir ensemble sans laisser les autres. Le Fonds monétaire international a annoncé que la croissance économique mondiale au quatrième trimestre 2016, d'un montant de 3,1% et devrait augmenter à 3,4% en 2017. La conférence de presse par le directeur exécutif du FMI, Christine Lagarde, devient l'ouverture de la réunion d'automne du FMI et de la Banque mondiale à Washington, D.C., du 7 au 9 octobre 2016. C'était la mise au point. Le président de la Fondation pour les ressources humaines en sciences et technologies, Wardiman Joyonegoro, encourage le gouvernement indonésien de continuer à faire des efforts pour développer la recherche en Indonésie. Selon lui, à présent, l'Indonésie a des chercheurs qualifiés, non moins que d'autres pays, mais la présence de ces chercheurs a besoin d'être pris en charge avec de bonnes infrastructures afin d'être en mesure de travailler pour développer la science et en rendre le nom de la nation célèbre sur la scène internationale. Wardiman Joyonegoro a déclaré mercredi à Jakarta, « À présent, la quantité des universités qualifiées en Indonésie n'atteint que 10% des quelques 4000 universités en Indonésie. Selon lui, ce montant n'a pas été en mesure d'accueillir les étudiants et les élèves indonésiens qui ont des compétences académiques élevées. Nous sommes en pleine croissance et je vois le gouvernement donne maintenant beaucoup d'attention. Certes, ceci ne peut pas être comparé à d'autres pays. D'abord, on doit donner l'attention aux infrastructures universitaires. Ces bonnes universités, ce 10%, ne sont pas capables d'accueillir les bons étudiants. L'installation qui se compose de bâtiments, les professeurs et les laboratoires. Nos professeurs et laboratoires ne l'ont pas été en mesure de correspondre à l'étranger. Wardiman Joyonegoro apprécie la présence du ministère des Recherches, des Technologies et d'Enseignement supérieur comme l'attention du gouvernement indonésien comme une forme d'effort de développement de la qualité scientifique des étudiants à une meilleure direction. Selon lui, à présent, le gouvernement a besoin de donner une meilleure attention au secteur de l'enseignement supérieur dans le pays en améliorant le budget de l'éducation dans le but de rivaliser avec les universités internationales à fournir une éducation de haute qualité et de produire des élèves et étudiants et de meilleure qualité. Le chef du Centre de données et d'information de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo Purwonugroho, a déclaré « Les efforts de la gestion des catastrophes en Indonésie ne suffisent pas de compter sur l'Agence nationale pour la gestion des catastrophes et la communauté. » Lors d'un séminaire sur le thème « Le rôle du secteur privé à répondre des questions mondiales » tenu à Jakarta récemment, Sutopo a souligné « Le rôle des entreprises dans la prévention des catastrophes devrait également être amélioré. » Selon lui, le rôle des entreprises après la catastrophe a été très bon, mais l'assistance avant la catastrophe doit être améliorée. Pour les activités d'intervention d'urgence, je pense que le rôle des entreprises et de la communauté a été remarquable. Mais le plus souvent, au moment de la pré-catastrophe, en particulier après la transition d'urgence, est généralement très minime. Eh bien, ce devrait être fixé ensemble. Comment de privilégier les activités pré-catastrophe? Sutopo Purwonugroho a ajouté, il y a encore beaucoup d'entreprises qui construisent leurs activités commerciales dans les bassins versants qui ont un impact sur les inondations, les glissements de terrain et la sédimentation. En outre, les incendies de forêt sont toujours causés par les entreprises qui brûlent la forêt et la terre. À cette fin, Sutopo Purwonugroho invite la communauté d'affaires pour garder son territoire. Sur la base de la loi de plantation, les institutions commerciales sont responsables de maintenir la zone des incendies de forêt, que ce soit le feu, des ressources foncières, existant à l'intérieur et à l'extérieur de la concession. L'inondation qui a eu lieu à Garut et l'impact de la mauvaise gestion des bassins versants Cimanuk. Le chef du Centre de données et d'information de l'Agence nationale de la gestion des catastrophes, Sutopo Purwonugroho, a déclaré aujourd'hui les dégâts des bassins versants indonésiens est extraordinaire. Selon ce topo, de 450 bassins versants en Indonésie, 118 bassins versants sont dans un état critique. Lors de séminaires sur le thème « Le rôle du secteur privé » à répondre à des questions mondiales tenues à Jakarta le mercredi 5 octobre, ce topo invite la communauté des affaires pour construire un barrage pour prévenir les inondations. Si vous comptez uniquement sur le financement gouvernemental, ce n'est pas possible. Donc, si les institutions d'affaires font des cotisations, la communauté n'a pas besoin de l'acquisition de terres. Seuls les petites barrages et des fossés. Quand la pluie, l'eau sera coincée là-bas. Donc, nous surmontons 118 bassins versants qui sont endommagés en Indonésie. Si seulement compter sur le gouvernement, ce n'est pas suffisant. Sutopo Purwonugroho a dit, le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement et des Forêts ont déclaré que sur la base du budget par année, seulement en mesure de remettre en état un maximum de 300 000 hectares de forêts et de terres. En effet, la dégradation de terres par an est 1,5 million d'hectares. De 300 000 hectares qui ont été réhabilités, seulement 150 000 hectares qui ont été écologisés avec succès. Sutopo souhaite qu'à l'avenir, il y aura un forum des agences commerciales en cas de catastrophe. L'Indonésie devient l'hôte du 6e jeu de TAFISA, The Association for International Sport for All, soit l'Association des sports internationaux pour tous, qui a eu lieu du 6 au 12 octobre 2016 à Jakarta. 87 pays ont confirmé leur présence au comité organisateur de Jeux de TAFISA le 5 octobre 2016. Le 6e Jeu de TAFISA présente 86 sports récréatifs et traditionnels sur la scène mondiale. Le président du comité organisateur de Jeux de TAFISA en 2016, Hayono Isman, a déclaré mercredi à Jakarta l'élection de l'Indonésie d'être hôte parce que l'Indonésie a une variété de sports traditionnels étonnants. L'Indonésie, précisément la ville de Jakarta, en 2011, au moment du congrès en Turquie, a remporté candidature. Dans la finale, nous avons battu la ville Nestlé aux Pays-Bas pour accueillir les 6e Jeux de TAFISA. L'une des raisons que nous avons gagné, parce qu'on a considéré l'Indonésie a une richesse de sports traditionnels extraordinaire, non seulement en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Malheureusement, ce sport traditionnel est en danger d'être éteint. Hayono Isman a expliqué, en plus de mener le sport traditionnel, le 6e jeu de TAFISA propose aussi des sports création culturelle, tels que Gemuh Mamere, Sajojo et Poco Poco, parce que l'exercice de ces créations ont une valeur aérobie élevée et énergique.
Chers auditeurs, nous continuons le journal dont les titres sont TAFISA World Games 2016 est une arène d'introduction de la culture indonésienne. Le gouvernement provincial de Grand Taro offre d'investissement aux entrepreneurs de Moyen-Orient. L'Indonésie accueille le 6e TAFISA ou l'Association internationale du sport pour tous qui dure du 16 au 12 octobre 2016 à Jakarta. 87 pays du monde ont confirmé leur présence au comité d'organisateurs de l'Organisation mondiale des sports publics. Le 6e Jeu mondial du sport, TAFISA, présente 86 sports récréatifs et sports traditionnels de l'Indonésie. Le sport mondial TAFISA est tenu tous les 4 ans Et cette année, l'événement mettra en évidence et aidera à réintroduire le sport traditionnel et des jeux de l'Indonésie par lequel tir à l'arc traditionnel, jet ski, yoga, gymnastique, course de BMX, match de football de la roue et pencak silat. Le président du comité de Tafisa 2016, Hayono Isman, a dit à RRI vendredi 7 octobre à Jakarta que le sport mondial Tafisa 2016 est l'occasion d'introduire la culture indonésienne au monde. La délégation indonésienne qui est venue de diverses provinces peut introduire les aliments, les sports traditionnels et les musiques traditionnelles. Selon Hayono Isman, les Jeux mondiaux du sport pour tout Tafisa à travers le thème de l'unité dans les diversités porte le message que la paix vaut mieux que la violence. Tafisa 2016 organise plus de 20 jeux, des démonstrations, des festivals et des expositions. Tafisa 2016 tiendra l'événement de briser le record du monde pour voler les cerfs-volants, faire les plus grandes feuilles le vendredi après-midi. Le gouvernement provincial de Gorontalo optimisera l'événement Indonesia Middle East Update 2016 pour améliorer le développement régional. Le gouvernement est prêt à offrir une variété d'investissements dans le domaine de l'énergie, le tourisme et la pêche à environ 27 investisseurs potentiels du Moyen-Orient qui participeront à Indonesia Middle East Update tenu les 9 et 10 octobre. Le gouverneur de Gorontalo, Rusli Habibi, dans un communiqué de presse a déclaré vendredi, il espérait un potentiel d'investissement à Gorontalo et des discussions par secteur, de sorte qu'il sera plus efficace et bénéfique pour l'augmentation de l'investissement à Gorontalo. Rusli Habibi a dit que Indonesia Middle East Update aura lieu à Gorontalo avec le soutien de la direction du Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères. Ce forum est une tentative de se rencontrer les hommes d'affaires de Gorontalo avec les acheteurs et les investisseurs potentiels du Moyen-Orient.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Magazine culturel. Ce soir, nous vous invitons à faire le tourisme culinaire à Lombok, Nusa Tenggara Ouest. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Nusa Tenggara Ouest est également connue comme Bumi Sejuta Sapi, soit la terre d'un million de vaches. On dit que la vache de Nusa Tenggara Ouest a un goût plus sucré que les vaches des autres régions. La saveur de vache de Nusa Tenggara Ouest est unique parce que les vaches sont laissées dans le pâturage et ne sont pas mises dans la cage. Les vaches paissent dans la savane, l'une des alimentations typiques de Nusa Tenggara Ouest qui vient de bœuf traité de Nusa Tenggara Ouest et saté rembiga. Saté rembiga ou rembige est l'une des alimentations typiques de Lombok, Nusa Tenggara Ouest. La délicatesse de saté rembiga est déjà célèbre, non seulement à Lombok, mais aussi dans d'autres régions d'Indonésie. La plupart des touristes étrangers qui viennent de Lombok vont prendre définitivement le temps de déguster cette cuisine typique de Lombok. Cette alimentation est appelée saté rembiga parce qu'elle vient du nom d'un village, Rembiga, qui est près de l'ancien aéroport Selaparang. Saté rembiga ayant la matière première, la vache typique de Nusa Tenggara Ouest, goût très délicieux. Il y a un mélange de salé, sucré et épicé. En effet, avant qu'on grille, d'abord pilonner le bœuf s'étendre, puis mariner aux épices étant une décoction de piment rouge, pâte de crevette, l'ail et le sucre brun pendant 2 heures dans le but de permettre aux saveurs de s'infiltrer dans le bœuf haché. Ensuite, la viande qui est déjà coupée en cubes est insérée aux brochettes de viande, puis grillée. Quand saté rembiga est servi, ce n'est pas nécessaire d'ajouter aucun assaisonnement car il était déjà épicé et sucré. D'habitude, saté rembiga est servi avec un gâteau de riz appelé lontong bulayak, à savoir le gâteau de riz enveloppé dans des feuilles de palmier. Faites pivoter vers le haut pour un cône sur les bords ressemble presque à un cône. Le prix d'une portion de saté rembiga contenant 10 bâtonnets est 20 000 rupiah. Pas cher, n'est-ce pas? Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant sur l'Indonésie. Merci de votre fidélité. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec la rubrique Indonésie en couleur. Gorontalo est l'une des zones à Sulawesi Nord qui a une tradition artisanale des ancêtres et a été transmis la broderie en main unique appelée Karawo. Ce soir, l'Indonésie en couleur discute sur le festival culturel Karawo 2016. Karawo est dérivé de la langue Gorontalo qui signifie la broderie en main. Le tissu fabriqué est un tissu traditionnel Gorontalo qui est transmis de génération en génération depuis le royaume de Gorontalo était encore prévaloir. Karawo peut aussi appeler Krawang par des personnes extérieures de Gorontalo. La production de tissu Karawang ou Karawo a subi un léger mort. Il y a beaucoup d'artisans qui ne veulent pas poursuivre ce métier en raison de la complexité et de la persistance qui consomment beaucoup d'énergie et de temps. Voilà pourquoi le gouvernement a fait une variété de façons de faire de l'artisanat typique de Gorontalo continu et de plus en plus populaire à la maison et à l'étranger. Pour soulever et développer ce métier, le gouvernement a tenu le festival Karawo qui a eu lieu pour la première fois du 17 au 18 décembre 2011. Ensuite, le festival est organisé chaque année dans le but d'attirer l'intérêt public, apporter des produits Karawo ainsi que renforcer l'économie par le développement de la culture locale. En 2016, le gouvernement provincial de Gorontalo tiendra à nouveau le festival culturel Carabo 2016 du 9 au 13 octobre. Le festival coïncide avec l'activité IMEU, soit mise à jour de l'Indonésie et le Moyen-Orient. IMEU est une réunion des commerçants, des hommes d'affaires, l'ambassade du pays Moyen-Orient en Indonésie. Selon le chef de la section d'information et de promotion du bureau touristique de la province Gorontalo, Fahmi Ihsan, l'activité du festival culturel Carabo coïncide également avec le festival Buelamo qui a eu lieu du 5 au 12 octobre 2016. Le festival culturel Carabo 2016 va représenter un certain nombre d'autres activités telles que la chanson de famille Carabo, le festival de bande, le festival de la mode, la conception Carabo et la compétition de photographie Carabo. En outre, dans ce festival de Carabo, les participants participeront à Carnaval Carabo. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. À très bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Voici le magazine musical en programme qui présente les musiques indonésiennes, soit pop et dangdut. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse et un compositeur de chansons pop de l'Indonésie, Lala Carmela. Pour ouvrir notre rencontre, voici Lala Carmela avec sa chanson intitulée « Désir d'amour ». Bonne écoute.
Bila sudah tak mungkin hasrat cinta menyatu, itu masih ada, bahkan telah jadi bagian dalam hidupku. Jangan coba tanyakan ketulusan cinta ini. Satu harapan dan juga
voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Chers auditeurs et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.